Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour Anne.
Bonjour Séverine.
Je suis super contente de t'accueillir sur le podcast Les Petits Plus Zen. On se connaît depuis 2 ans. On s'est rencontrés dans un mastermind business et on avait toutes les deux déjà notre podcast de lancer. Donc on s'est réunis autour de beaucoup de thématiques que vous allez découvrir aujourd'hui. Tu es spécialisée dans plusieurs options que tu vas nous présenter. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours pro et de ta spécialisation, s'il te plaît?
Oui, alors je vais essayer d'être concise, ce qui est un peu difficile. Tu vas voir avec moi, j'ai parfois un petit peu du mal, mais on va essayer. Bah, déjà, je te remercie beaucoup, Séverine, de m'avoir invitée à venir parler de parentalité et en plus de ma spécificité. Bah, je trouve ça super parce que voilà, moi, je suis psychothérapeute et pendant les presque 10 premières années, de ma pratique de psychothérapeute, j'ai accompagné des enfants très jeunes et leurs parents, de ce fait. Donc voilà, le sujet de la parentalité m'a été cher pendant très longtemps. Et puis petit à petit, j'ai réorienté ma pratique ces dernières années autour de la relation avec l'alimentation. Alors, peut-être on y viendra, hein. C'était entre autres en lien avec mon parcours à moi de mangeuse qui a été jalonné de différentes choses. Alors, pas trouble, parce que je n'ai jamais eu un trouble des conduites alimentaires diagnostiquées, mais en tout cas, voilà, d'une alimentation troublée, et je pense que peut-être mon parcours parlera aux personnes qui nous écoutent. Et puis, voilà, j'ai voulu plus spécifier ma pratique autour de ces problématiques de la relation avec l'alimentation, de la relation avec l'image corporelle. Vaste sujet, mais voilà, nous allons en discuter ensemble.
Absolument. Donc, quand on s'est rencontrés, on était en train de préparer notre premier programme en ligne. Donc, toi, exact. Tu as choisi le thème de l'alimentation et moi, le thème des émotions dans la parentalité. On a appris à construire ça, à définir notre mission. Et mm-hmm. Je te rejoins, ça vient évidemment de ce que nous, on a vécu personnellement, hein, et moi sur les émotions et toi sur l'alimentation. Donc, comment tu pourrais présenter aux gens qui ne connaissent pas du tout cette thématique de l'alimentation intuitive? Est-ce que tu veux déjà faire un premier rapport sur... toi, ta spécialité, parce qu'on va aller tout à l'heure vers le thème de manger ses émotions. Mmh. Donc, est-ce que tu peux déjà présenter cette spécialité sur l'alimentation? Comment tu la vois maintenant, l'alimentation, avec ton bagage?
Alors, plutôt que d'alimentation, j'ai envie de parler de relation avec l'alimentation. Mmh. Parce que dans mon travail de psy, je ne vais pas conseiller, accompagner les personnes sur quoi manger, quand... quelle quantité, enfin voilà, ce qui va être le travail d'un nutritionniste ou d'une diététicienne. Voilà, moi, je suis vraiment autour de la sphère psy. Donc, nous allons explorer ensemble la relation avec l'alimentation. Et comme tu le disais, une des approches à laquelle je suis sensibilisée, c'est la thérapie d'alimentation intuitive. Alors, je travaille aussi avec la thérapie ACT, thérapie d'acceptation et d'engagement, qui est à la croisée des chemins entre les thérapies cognitivo-comportementales et l'approche de pleine conscience, pour résumer hein, très succinctement. Et donc, vraiment, notre travail, ça va être de tendre vers retrouver une relation apaisée avec l'alimentation, qui ne sera plus faite de « il faut, je dois » ou « je devrais »,« il faudrait », essayant de suivre des recommandations qui ont peut-être été internalisées depuis très longtemps, surtout si on a fait des nombreux régimes, comme moi j'ai pu le vivre aussi. Et du coup, la relation avec l'alimentation n'est plus du tout naturelle et fluide, en fait. Elle est faite de questionnement, elle est faite de culpabilité, bien souvent, parce qu'on voudrait, il y a qu'à, faut qu'on, je devrais, pourquoi je n'y arrive pas, et toutes ces injonctions qu'on peut se mettre en tête, en fait, et qui sont compliquées à suivre, puisque ça ne suit plus du tout les messages que nous envoie notre corps, nos signaux de faim, nos envies, notre plaisir de manger. Donc voilà, c'est devenu extrêmement compliqué en fait et extrêmement mentalisé. Donc le travail qu'on va faire, c'est vraiment de tendre vers, j'aime bien dire tendre vers parce que c'est un cheminement qui peut prendre du temps et qui demande de la patience, de la persévérance, mais tendre vers une relation qui redevient plus fluide, plus apaisée avec notre alimentation, telle que nous la vivions quand nous étions un petit enfant, finalement, bien que ça puisse se compliquer très très tôt, hein, cette histoire-là. Mais voilà, au départ, nous savions tous et toutes faire, en fait, et vivre cette relation fluide avec l'alimentation. Donc, au travers de différentes étapes, différents principes, puisque la thérapie d'alimentation intuitive propose 10 principes phares, ben voilà, nous allons travailler à ça et voilà, tendre vers cette relation plus apaisée.
C'est vraiment intéressant parce que ça rejoint évidemment la bienveillance que moi j'essaye d'apporter dans l'accueil des émotions de l'enfant, du comportement de l'enfant, tout autour de la parentalité. Et tu utilises bien sûr le même vocabulaire, la même acceptation, la même flexibilité, faire la paix avec qui on est, comment on veut manger, ne pas se juger, faire alliance avec soi-même. C'est des termes qui vont se regrouper dans nos pratiques alors qu'on est arrivé par des chemins un peu différents.
Mais oui.
J'aime beaucoup, moi, t'écouter dans le podcast. Hein, donc déjà, allez écouter le podcast d'Anne. S'appelle La pleine conscience du pouvoir, que vous trouverez sur toutes les plateformes. Moi, quand j'écoute les témoignages de tes interviewés, que ce soit des experts ou des gens qui ont dépassé un petit peu leurs troubles alimentaires, on se retrouve dans plusieurs points qu'on a peut-être mis de côté quand on est devenu parent, qu'on a peut-être aussi mis de côté parce que ce n'est pas la priorité du moment. Et je trouve que c'est vraiment en toute humilité, en toute vulnérabilité que les gens se confient et viennent déposer dans ce podcast. Et peut-être aussi en séance, tu nous diras tout à l'heure, que c'est une sphère encore assez compliquée de partager avec ses proches, de se faire accompagner, d'oser demander de l'aide, un peu comme l'est la parentalité aussi. Il y a quelque chose d'un petit peu honteux qu'on doit
Exact.
dépasser toutes les deux en tant qu'expertes, d'oser se faire accompagner justement pour ressentir de l'intérieur à quel point ça fait du bien d'apaiser notre relation à l'émotion ou notre relation à l'alimentation.
Mais
Est-ce que ça
oui,
évoque quelque
complètement.
chose?
Ah, mais oui, tu as tout à fait raison, hein, et pour avoir été voilà, dans cet accompagnement à la parentalité aussi, avant d'accompagner aujourd'hui la relation avec l'alimentation et l'image corporelle. Voilà, c'est tellement intime, personnel, et il peut y avoir très vite de la honte, effectivement, à pas faire ce qu'il faudrait. Et on peut être drivé par des injonctions, là aussi, hein, dans la parentalité. Dieu sait qu'il y a des injonctions aussi, des je devrais, il faudrait, je n'y arrive pas, pourquoi moi, j'y arrive pas, etc., etc. Exact, il y a vraiment quelque chose de commun. Et l'autocompassion, l'auto-bienveillance sont vraiment au cœur des processus que nous accompagnons. C'est d'ailleurs, hein, dans mon accompagnement de groupe, dont je parlerai peut-être tout à l'heure, indépendance cannelle, c'est l'étape zéro, en fait, du process. C'est OK, comment je peux commencer à trouver le chemin de plus d'auto-bienveillance envers moi-même? Comment je peux m'accompagner, moi, dans ce processus qui va demander, justement, hein, beaucoup de développer cette auto-compassion, cette auto-bienveillance, donc, et de tendre vers, encore une fois, plus de considération envers moi-même et plus d'apaisement dans ma relation à moi-même. Donc, oui, en tant que maman, en tant que parent, on est au même endroit, je pense, tu as tout à fait vu juste, que dans cette relation, au corps et à l'alimentation.
Moi, je n'avais pas remarqué autant de troubles de l'oralité et de l'alimentation en début de carrière, quand j'étais maîtresse. Mais quand j'ai eu le dispositif des moins de 3 ans, je me suis rendu compte que très tôt, en fait, les enfants de 2 ans qui étaient dans la classe avaient un rapport alimentaire qui était soit dans la restriction, soit dans l'affolement gustatif. Ça veut dire que si je mettais un plateau, ils ne savaient pas se retenir parce qu'il y avait quelque chose à la maison qui interdisait. Et donc,
Eh
il y avait une relation très équilibrée à l'alimentation. Je pouvais laisser le gâteau d'anniversaire en plein milieu il n'était pas comme ça attiré comme un aimant sur ce gâteau. Je me suis étonnée en fait de voir ça très tôt. Il y avait plusieurs profils dès 2 ans.
Eh oui.
Quand je discutais avec les mamans, je voyais en fait le rapport à l'alimentation plutôt fluide, comme tu disais, ou plutôt troublé, et qui englobait aussi d'autres choses, d'autres symptômes, comme la séparation à la maman, comme le langage aussi, comme le fait de faire confiance, l'attachement. Et bon, toi, tu es psychothérapeute, donc tu fais le lien facilement, mais on peut peut-être dire aux parents aussi qui nous écoutent que l'alimentation est un clignotant possible sur aussi d'autres domaines de la parentalité, et que quand notre enfant a du mal à s'alimenter, ça peut toucher d'autres domaines du coup.
Et oui, complètement. Et oui, ça peut être un symptôme en fait de quelque chose, mais ça parle aussi, tu vois, j'adore l'exemple que tu as donné là du gâteau d'anniversaire, mais de ce qui se met déjà en place en fait dans la potentielle restriction, les interdits qui sont posés à la maison. Alors, en voulant bien faire, hein, bien sûr, puisque en tant que parents, nous voulons toujours faire le mieux pour notre enfant.
Hein,
toujours. Mais n'empêche que les personnes que nous accompagnons, quoi qu'il en soit, veulent toujours faire du mieux possible pour leur enfant. Mais ce mieux possible, il peut être biaisé par notre propre histoire, notre propre relation avec l'alimentation, qui peut-être nous a été transmise nous-mêmes par nos parents dans notre éducation, peut-être qu'il y a déjà eu, et nous avons fortement internalisé les « je dois », « il ne faut pas », « le sucre c'est mauvais », « il faut finir son assiette », enfin toutes ces injonctions qui sont déjà posées, « il faut absolument manger des légumes », « il faut que l'assiette soit toujours équilibrée », « il faut, il faut, il faut ». Et du coup, bah, nous remettons cette pression, c'est il faut dans les repas de l'enfant, dans la relation de l'enfant avec l'alimentation. Moi, je suis avec des personnes qui vont me raconter, on en entend dans des témoignages du podcast, qu'elles passaient je ne sais pas combien d'heures derrière leur assiette à ne pas pouvoir quitter la table parce que non, tu finis d'abord tes légumes avant d'avoir ton dessert.
C'est le principe.
Tu vois, voilà, de quelque chose de très rigide en fait. Ou alors ces interdits autour du sucre hein, que j'entends souvent aussi dans les témoignages. À la maison, il n'y avait rien de tout ça. C'était considéré comme voilà, des cochonneries. Il fallait pas. Et les goûters d'anniversaire chez les copains où je me ruais sur le buffet, raconte les personnes pour manger tous les bonbons possibles et imaginables parce que je sais, j'aurais plus le droit d'en manger avant le prochain anniversaire d'un copain ou d'une copine. Donc voilà, vraiment, il y a quelque chose qui s'installe très tôt. Et merci pour cet
comme
exemple.
S'il y avait des fenêtres de liberté et qu'après, on refermait la fenêtre. Moi, j'ai un rapport au plaisir, j'en parle souvent dans les épisodes par rapport et au corps et au consentement et aussi à la vie tout simplement. Parce que si on se refuse tous les plaisirs, c'est quand même compliqué d'avancer. Et l'alimentation est parfois déjà quelque chose qui est un plaisir caché très tôt. Je me souviens d'un petit garçon de 2 ans qui fouillait derrière le rideau pour récupérer des biscuits au chocolat. C'était une stratégie vraiment de se rassurer, d'aller prendre les gâteaux de la classe. On a parlé de tout ça avec sa famille, bien entendu, mais sa famille ne voyait pas le problème parce qu'à la maison, il se servait dès que son émotion était trop forte à accueillir. Et je pense qu'on va y revenir bientôt dans la suite de l'interview. C'est que la capacité de manger est parfois directement liée à l'impuissance ressentie qu'on a sur l'émotion qui passe, l'émotion qui nous vient, de frustration, de colère, de peur, d'inquiétude. Et ce lien-là, moi, je le fais assez rapidement avec les mamans. Quand on est dépassé, débordé, démuni, et je l'ai été aussi avec ma première fille, et ça m'arrive encore avec ma deuxième, une tentation est de se faire plaisir par l'alimentation. Et quand on a installé ça très tôt, et moi, ça a été mon cas, très tôt, j'étais débordée par mes émotions et j'avais trouvé comme stratégie que manger calmait mes émotions.
Mais oui, et
ça fonctionne. Quand tu as fait l'épisode 83 là, sur manger tes émotions, il m'a donné envie de t'envoyer le mail pour qu'on se rencontre. Ce terme de manger ses émotions qu'on voit dans beaucoup de journaux actuellement, et j'aimerais vraiment qu'on pose ça là pour toutes les mamans qui ont l'impression qu'elles mangent leurs émotions quand elles se sentent démunies. Est-ce que c'est aussi quelqu'un que tu rencontres régulièrement dans ta clientèle, au cabinet ou en ligne ?
Oui, tout à fait. C'est un thème. Alors, exprès, j'ai mis ce titre-là parce que, comme tu le disais, ça revient très souvent. Et la plupart du temps, les contenus qu'on entend ou qu'on peut lire vont nous dire que ce serait une bonne idée d'arrêter de le faire, en fait. Ouais. Que ce ne serait pas bien, que manger ses émotions, ça veut dire qu'on mange alors qu'on n'a pas faim et que ce ne serait pas bien de ne pas manger alors qu'on n'en a pas besoin. Et bon, moi, j'ai un, tu as entendu, un point de vue un petit peu décalé par rapport à ça. Parce que, comme tu le disais, manger, ça apporte du plaisir. Et déjà, c'est une émotion. Donc, si on ne mange plus et que ça ne nous procure pas de plaisir, bah, quel dommage, en fait, de pas rechercher.
On perd déjà un pilier de plaisir.
Exactement, on perd un pilier de plaisir. Et manger, lorsque nous ressentons des émotions difficiles, bah, c'est... ou même des émotions agréables, hein, j'en parle dans l'épisode, hein, parce que ça peut être aussi un moyen d'amplifier, en fait, justement, le plaisir ou de prolonger un moment où on se sent bien. Parce que l'action de manger est aussi, en tout cas pour nous en France, très en lien avec le lien social, justement, avec le fait d'être avec des personnes avec lesquelles on se sent bien.
De célébrer.
Et on va exactement, de célébrer, on va prolonger ce moment, etc. Donc, manger pour des raisons émotionnelles, au départ, ce n'est pas un problème. C'est même une des fonctions de l'alimentation, de nous aider à réguler nos émotions ou à les amplifier. Par contre, là où ça peut commencer à devenir un souci et surtout un inconfort pour la personne, c'est quand elle se rend compte que c'est utilisé quasiment systématiquement, en fait, et ou que ça engendre de la culpabilité. C'est-à-dire que cette fonction tout à fait normale de l'alimentation qui est de nous aider à traverser une émotion, par exemple, difficile, eh bien, si juste après on se dit oh, « non, j'aurais pas dû, oh non, c'est pas bien, oh là là », eh bien, ça va venir annuler déjà le réconfort que ça pouvait apporter ou ça va venir le gâcher finalement, ce réconfort-là. Mais en plus, ça va nous mettre dans quelque chose de difficile qui peut nous emmener, bah, par exemple, vers du foutu pour foutu, vers un mode plus compulsif ou alors de se dire non. Enfin, voilà, ça va créer une tension, en fait, qui va vraiment être encore plus désagréable que l'émotion du départ. Ce dont nous pouvons nous rendre compte aussi, c'est qu'il y a un systématisme, comme tu le disais tout à l'heure, qui va faire qu'on va être dans l'évitement émotionnel. Alors, on ne s'en rend pas compte, hein, bien sûr, on ne le fait pas exprès. Hein, mais voilà, on fait un pas de côté, on se rend compte qu'on est dans cet évitement émotionnel systématique et qu'on se dit bah, peut-être que j'aimerais bien varier un petit peu mes moyens d'accueillir mes émotions et trouver peut-être d'autres façons de le faire. Mais nous avons pu, comme tu le disais, construire une autoroute, en fait, comportementale.
Comme stratégie. On la connaît déjà. Celle-là.
Exactement, exactement. Et nous ne nous rendons même pas compte qu'il y a cette autoroute-là, en fait, qu'on prend. Donc, vraiment, tout le travail, peut-être, d'essayer de, bah, déjà de faire un pas de côté, d'observer ce qui se passe, et puis ensuite, de se dire, OK, je vois que j'ai cette autoroute-là. Est-ce que je peux... Et j'ai envie de construire d'autres petits chemins, en fait, des déviations, des départementales au départ qui vont me permettre de sortir de cette autoroute-là. Et puis peut-être trouver déjà de faire ce travail autour de l'accueil des émotions hein, que tu proposes également. Hein, comment je peux apprendre, c'est quoi une émotion, à quoi elle me sert, pourquoi elle est là, enfin, etc., etc. Je pense que tu en as parlé déjà maintes et maintes fois ici. Donc voilà, ça va commencer par ça. Et puis ensuite, bah, comment je peux éventuellement diversifier. Mais je pense que le premier truc, c'est de se dire, manger pour des raisons émotionnelles, c'est quelque chose de normal et nous n'aurions pas à culpabiliser là-dessus. Parce que c'est un moyen qui fonctionne, en fait. Donc, alléluia. Alléluia, pourquoi nous nous en prions.
Ça calme l'attention sur le champ, pratiquement.
Exactement, exactement.
Et dans notre monde civilisé, c'est quand même facile d'accéder à la nourriture. Donc, ça nous demande un effort très compliqué d'accéder à de la nourriture qui, très rapidement, va faire baisser l'émotion et la flamme actuelle.
Exactement.
Une flamme d'impuissance ou de colère ou de doute.
Oui.
Ou de peur, on a ce moyen-là en libre accès. C'est pas très cher. C'est une addiction, qu'on va dire, un peu moins dangereuse que certaines, même si hein, on connaît maintenant les effets du sucre sur le côté addictif.
Oui, alors là-dessus, j'ai des choses à dire, hein. Mais peut-être que ce sera le sujet d'un autre épisode, je ne sais pas. Mais cette addiction au sucre hein, dont on parle tant, on sait aujourd'hui, alors les recherches peuvent évoluer. Hein, voilà, moi, je vous parle avec les connaissances qu'on en a aujourd'hui, qu'on va être plus être dans une addiction comportementale qu'une addiction à la substance. Parce que jusqu'à aujourd'hui, cette addiction à la substance... elle n'est pas clairement prouvée. Hein. Tu sais, la fameuse expérience des rats, en fait, qui revient sans cesse. Moi, j'en peux plus de cette...
Questionne la pompe.
C'est ça, de cette expérience des rats, en fait, qui préfèrent le sucre à la cocaïne. Ce qu'on oublie de dire, c'est que dans cette expérience-là, les rats n'avaient accès à de la nourriture qu'à des heures très limitées, en fait, tout comme on nous le fait avec des régimes. Tiens, d'ailleurs, Et du coup, le seul moment où ils avaient accès à la nourriture, c'était le moment où ils pouvaient actionner la pompe à sucre. Et ils sont pas débiles, en fait, les rats. Ils préfèrent être nourris que de prendre de la cocaïne. Enfin, ça n'avait aucun intérêt pour eux. Donc, bien sûr qu'ils préféraient le sucre à la cocaïne parce que c'est ça qui va nous nourrir le plus rapidement et nous apporter de l'énergie. Donc voilà, après, vous trouverez, je pense, assez facilement des références sur cette étude-là sur Internet. Et voilà, des pincettes quand même avec cette étude, parce que comme souvent avec les études qui sont reprises par les médias ou quoi, on fait un gros titre sur quelque chose, mais on ne va pas voir les tenants et les aboutissants derrière. Hein. Donc bon, bref. Donc l'addiction, elle va plus être comportementale.
Il y a des biais. Résultats sur
Exactement.
Cette étude et qui permettent de vendre tout un tas d'options, de produits et de régimes.
Exactement.
Disons-le aussi, que si on nous dit qu'on est addict au sucre, c'est comme s'il y avait quelque chose à soigner et ça nous permet d'acheter un produit qui va résoudre notre problème.
Exactement.
Là, ça amène beaucoup d'espoir sur le fait que l'addiction au sucre n'est pas non plus quelque chose dont on ne peut pas se dépêtrer seul et dont on ne peut pas se dépêtrer tout court. Par contre, les leviers qu'on va aller chercher vont être de tout ordre possible, pour le meilleur et pour le pire, j'imagine.
Exactement.
Pour les clientes que tu accompagnes, il y en a peut-être qui sont allées tester tellement d'options possibles qu'elles arrivent chez toi en ayant l'impression d'être incompétentes dans cette
thématique. Mais oui, c'est parce que c'est justement ce qu'en vendre les régimes, les détox, les plans alimentaires, qui sont à long terme pas tenables, en fait, et vont faire qu'on va mettre du contrôle sur notre alimentation pendant un certain temps. Alors, c'est intéressant parce que bientôt, je vais enregistrer, alors je ne sais pas encore quand il paraîtra, mais un épisode avec Ariane Garcia, qui est psychologue, elle aussi spécialisée dans les troubles alimentaires, et pour parler justement des bénéfices du contrôle et de l'ambiguïté qu'on a à lâcher le contrôle, parce que ça peut nous faire nous sentir fortes, compétentes, tu vois, enfin c'est grisant en fait quand on fait un régime, qu'on y arrive, qu'on contrôle, qu'on maîtrise.
La première chose que j'ai compris en écoutant ton podcast, c'est que j'étais tombée dans les régimes par envie de contrôler au moins une chose dans ma vie.
Oui, mais bien sûr.
Et c'est la première prise de conscience que j'ai eue sur ton podcast. Je me suis dit, mais oui, je ne contrôlais pas mes émotions, je ne comprenais pas mes parents, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait à l'adolescence. Donc, je me suis dit, je vais au moins contrôler mon corps, le sport, l'alimentation.
Exactement.
Et beaucoup de témoignages ensuite ont ramené à cette question de là, j'ai l'impression d'être puissante. Là, j'ai l'impression de maîtriser. Et on a un besoin de pouvoir et de maîtrise sur une de nos rayures d'arc-en-ciel des besoins. Mais à quoi on va l'appliquer? Et je le dis avec les enfants souvent, c'est pas sur nos enfants qu'on va appliquer notre besoin de maîtrise et de contrôle. Et ça marche pas non plus avec l'alimentation.
Mais non. Mais non, parce que c'est ça, ça peut marcher à court et moyen terme, hein, et il y a même des personnes qui vont rester dans ce contrôle-là pendant des dizaines d'années, tu vois. Bon, après, il y a des personnes pour qui ça peut dégénérer vers une pathologie de type trouble alimentaire restrictif, comme l'anorexie mentale. Et puis, il y a des personnes, et c'est plutôt sain, en fait, qui vont pas réussir à tenir et qui vont lâcher, en fait, ce contrôle. Mais sauf que ça va être comme un élastique qu'on aura trop tendu, tu vois. Quand tu le relâches, paf, ça te claque à la figure et ça repart dans l'autre sens, en fait. D'où les fameux foutu pour foutu, de toute façon, j'y arrive pas, de toute façon, je suis nulle, la dévalorisation, la perte d'estime de soi, l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Enfin, c'est extrêmement autodévalorisant, en fait, comme système.
Une spirale de dépression.
Exactement. Exactement. Et puis, ça fait rentrer dans cette fameuse spirale ou ce cercle infernal, restriction, compulsion ou régime, je lâche. Et en se disant à chaque fois qu'on lâche, mais c'est moi qui ne va pas en fait, c'est moi qui ai un problème ou c'est moi qui suis addict au sucre ou qui n'arrive pas à rester dans les clous, à contrôler en fait. Parce que tout ce qu'on nous dit, tout ce que la culture des régimes, la culture de la minceur nous dit, c'est que nous pourrions contrôler en fait notre corps et l'emmener là où nous désirons l'emmener. Alors qu'en fait, c'est impossible. C'est impossible à moins de rester dans un contrôle permanent en fait.
Et en plus, ça nous envoie l'horrible phrase du « quand on veut, on peut ».
Ah, mon Dieu.
Assez dramatique, et dans la parentalité, et dans l'alimentation, et même au niveau pro, qui nous induit que si on n'y arrive pas, c'est nous qui avons un problème.
Exactement.
Donc, soit les gens vont aller vers la déresponsabilisation totale en disant « c'est pas ma faute, c'est pas moi qui peux, c'est la société et tout », ou alors tout prendre sur eux et remettre une couche de culpabilité et d'impuissance en disant « mais je suis nulle, c'est moi qui n'y arrive pas, pourquoi les autres y arrivent puisque on vend que ça marche chez les autres ?»
Mais oui.
Pour faire un petit spoiler, ça marche chez personne.
Oui, mais oui, à long terme en tout cas. Se concentrent sur, et c'est ça que font les vendeurs de régime, hein, ils se concentrent sur le court ou le moyen terme en fait. Ils ne nous montrent jamais les résultats à 4, 5 ans en fait après. Alors, ce n'est pas pour rien qu'une industrie comme Weight Watcher, hein, je les cite parce que moi, je me suis beaucoup inscrite à Weight Watcher.
Allez,
j'ai beaucoup voilà, suivi ce programme-là qui fonctionne hein, tant qu'on le suit. Comme tout régime, en fait. Hein. Alors là, on n'est pas dans le comptage de calories, on est dans le comptage de points, mais c'est exactement le même système, en fait. Mais sauf que pourquoi ils prospèrent autant, c'est parce que beaucoup de personnes, tout comme moi, se réinscrivent. Parce que pourquoi? Parce que ça n'a pas fonctionné à long terme, en fait. Et qu'elles pensent qu'il faudrait continuer à poursuivre ce graal, en fait, autour d'un poids idéalisé, d'une minceur idéalisée, quelle que soit notre génétique, quel que soit notre âge aussi, quel que soit ce que nous avons traversé dans notre vie, que ce soit au niveau corporel, émotionnel, hormonal, etc. etc. hein, bah, il faudrait tendre toujours vers ce poids qu'on idéalise parfois depuis notre adolescence, en fait. Donc, bah, nous nous réinscrivons à Weight Watcher et la machine tourne bien. Hein. C'est une multinationale très prospère. Bon, je parle d'eux, il y en a plein d'autres, hein, mais...
Et c'est le même système, en fait. On nous promet quelque chose qui paraît facile parce que ça a été pris en considération de leur côté pour que ce soit actionnable. Et on y reviendra tout à l'heure sur la composition éventuellement des menus parce que tout n'est pas déterminé dans le choix de l'assiette. Il y a aussi tout l'état d'esprit, tout comme bah, ce n'est pas juste le comportement qu'on va avoir avec l'enfant à l'instant T, c'est ce qu'on pense de l'avenir de l'enfant. Enfin, il y a vraiment un faisceau de thématiques qui sont liées à l'alimentation intuitive comme à la parentalité empathique. Est-ce que du coup, tu peux nous préciser un peu les grands principes de l'alimentation intuitive pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler ? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme petit pilier de référence pour mieux comprendre ce thème ?
Oui, alors l'alimentation intuitive, déjà, c'est une thérapie. Je pense que c'est important à préciser parce que ce n'est pas une méthode, tu vois, on va te dire faites ci, faites ça, petit 1, petit 2, avec un plan d'action à suivre, dans l'ordre, etc. C'est vraiment un processus thérapeutique. Alors, il y a 10 principes qui sont comme des piliers, finalement, qui vont être traversés pendant ce processus thérapeutique qui peut prendre des années. Hein. C'est aussi pour ça que ce n'est pas forcément vendeur hein, quand on parle de thérapie,
non,
parce que
ce n'est
pas... Voilà, en 3 mois, ou même en 6 mois, ou même en 1 an, vous aurez terminé ce chemin. C'est un chemin au long cours qui permet un apaisement quand même relativement rapide. Après, tout dépend ce qu'on appelle rapide. Hein. Donc, moi, là-dessus, je préfère pas me prononcer parce que ça dépend aussi des personnes. Mais voilà, en quelques mois, il peut y avoir un apaisement. Moi, je le constate chez mes clientes, en particulier dans l'accompagnement indépendance Canel, où nous sommes ensemble pendant 1 an. Elles disent, bah voilà, au bout de quelques mois, il y a un apaisement que je ressens. Et puis, au bout d'une année, je me sens OK pour poursuivre ce chemin, en fait, sans avoir un accompagnement régulier. Donc, voilà, il y a 10 principes qu'on va traverser. Alors, je les ai énoncés et un peu plus détaillés dans un épisode du podcast. C'est le 47 où je parle de ces 10 principes de la thérapie d'alimentation intuitive. Et le premier, moi, j'ai envie de vous en parler peut-être un peu plus parce que pour moi, il est... très innovant, je n'avais jamais entendu parler de ce principe-là avant de rencontrer la thérapie d'alimentation intuitive. Et ce premier principe, c'est de rejeter la culture des régimes et de la minceur. Les auteurs hein, de l'approche, qui sont Evelyn Tribol et Elise Reich, qui sont deux diététiciennes nutritionnistes américaines, qui ont créé cette approche, qui l'ont testée sur des centaines et des centaines de personnes, ont écrit un manuel, et propose une formation aujourd'hui, mais qui est anglophone. Donc, moi, je n'ai pas suivi cette formation. Hein. Je ne suis pas certifiée à cette approche-là. J'ai suivi une autre formation francophone parce que bah, voilà, mon anglais étant ce qu'il est. Voilà. Mais bon, bref, Evelyn Tribol et Elise Reich sont les seules, à ma connaissance aujourd'hui, qui vont parler de ce principe-là, de rejeter la culture des régimes et de la minceur. Elles nous proposent même, donc j'allais dire, de nous mettre en colère, en fait. Parce que c'est une étape, moi, qui m'a semblé en tout cas indispensable personnellement de passer par cette étape de la colère, de me dire, mais qu'est-ce qu'on m'a mis en tête depuis que j'avais 14-15 ans, tu vois, que mon corps devait être conforme, que mon corps devait être comme ceci, comme cela, et que j'ai poursuivi ce Graal pendant 30 ans par la suite, en fait, et que ça m'a mené à vraiment pourrir ma relation avec mon alimentation et avec mon corps. Donc vraiment, passer par cette étape d'ouvrir les yeux, en fait, de se rendre compte que c'est partout, en fait. Ces injonctions-là sont partout, que ce soit au niveau des images, au niveau des propos, au niveau de ce qu'on devrait faire, au niveau médical. On voit ça partout. C'est comme quand...
Et ça fait vendre. Donc en plus,
et ça fait vendre. C'est une industrie.
C'est problématique. C'est de la consommation à plein régime. Et si on ne s'indigne pas contre le système de consommation, on en est finalement victime aussi. Donc on a du
exactement. Exactement. Donc, alors après, c'est tout un travail hein, qui, c'est le premier principe, mais ce qui est important de dire aussi, c'est que même s'ils sont proposés dans un ordre, en fait, on va faire des allers-retours, en fait, entre ces différents principes, hein, parce qu'après, il y a d'autres principes qui nous parlent, des sensations de faim, par exemple, de retrouver ces sensations de faim. Il y en a autour de la satiété, du rassasiement, de la différence entre les deux. On parle du plaisir de manger, on va parler relation au corps. On va parler des pensées aussi autour de la nourriture, hein, cette restriction cognitive, toutes les pensées qu'on a internalisées de « je dois, je devrais, il faut, il ne faut pas », tout ce que notre cerveau nous envoie comme pensée à partir du moment où nous pensons à l'alimentation ou à notre corps. Donc ça aussi, c'est un travail de fourmi, en fait, de déconstruire tout ça. Donc, dans l'approche d'alimentation intuitive, on va parler de la police de la nourriture. Et cette police, moi, j'aime bien parce que c'est vraiment « Oh, tu devrais, il ne faut pas !» Il y a comme s'il y avait des lois, tu vois. Voilà. Et puis, petit à petit, transformer ces pensées-là dans un conseiller bienveillant, en fait. Et on va parler de nutrition bienveillante aussi. D'ailleurs, c'est le dernier et dixième principe de cette thérapie parce que avant de pouvoir reconsidérer la nutrition comme bienveillante pour nous, pour notre corps, bah, il faut avoir déjà déconstruit pas mal d'injonctions en fait, qu'on avait. Là, on va parler relation au mouvement aussi, parce que tu le disais hein, dans ce que tu témoignais pour toi, mais le sport peut être vécu comme juste un moyen de modeler le corps ou de perdre du poids et comme une contrainte, en fait, plutôt que quelque chose qui va nous faire du bien, nous faire nous sentir bien. Et Dieu sait que quand on est parent, bah, on a besoin de choses qui vont venir nous faire du bien et nous, voilà, nous mettre...
Des paillettes de satisfaction quand même, à droite
exactement,
à gauche.
Exactement. Et quand on a vécu le sport, comme peut-être tu l'as vécu, mais comme moi je l'ai vécu, comme une contrainte, un je dois, il faut, et si je ne fais pas tant de séances par semaine, en fait, ça ne sert à rien, et blablabla. Tu sais, le fameux, ça ne sert à rien de courir en dessous de, je ne sais plus, c'est 30 ou 45 minutes parce que tu ne brûles pas du gras. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, en fait hein. Même si on court que 5 minutes, mais que ça nous fait du bien. Mais super, quoi.
Et bon, le métabolisme, en plus, maintenant, ça a été remis en question. Puisque les...
Ah bon, en plus.
En plus.
Alors, en plus, c'est si, faux. Alors,
si
bon.
Ça ne fonctionne même plus pour ceux qui ont un métabolisme un tel ou un tel.
C'est ça. Et
c'est ce qui avait aussi bien marché pour la Zumba. On l'avait évoqué en mastermind toutes les deux. C'est que le concept de la Zumba, il a revendu le plaisir d'aller danser sur les platines. Et ça a super bien marché dès le démarrage parce qu'ils vendaient de l'amusement, du
exactement.
Fun, du détente, du plaisir. Et du coup, la Zumba, ça paraît ne pas être un sport, mais quand vous y allez toutes les semaines, moi j'ai été instructrice Zumba, c'est du sport, il y a des squats, il y a des sauts, il y a du cardio. Et c'était un super concept pour réconcilier les gens avec la culture du sport que pour l'extérieur. Enfin, le sport était du bien-être.
Exact.
La question du bien-être dans le sport, elle est tellement importante plutôt que l'apparence du muscle, la photographie instagrammable.
C'est ça.
À la salle de sport, vous avez vu comme j'ai de la valeur, j'ai du mérite. Regardez-moi, je suis valable.
C'est terrible.
Et là, ça touche tellement au principe de psychothérapie, comme tu dis. On glisse après vers des considérations qui sont plus caloriques, qui sont plus dans le comportement de l'assiette, qui sont dans... Est-ce que je vais être aimée, même si je ne ressemble pas
à
l'aide des médias?
Mais oui,
ça touche à l'amour de soi, ça touche à l'attachement, ça touche au fait de ne pas correspondre à l'idéal que l'autre a de moi. C'est difficile à traverser tout ça.
Complètement, mais complètement. Mais
ouais. Explique pourquoi tu fais une proposition sur un an.
Tout à fait.
Des thématiques qui doivent prendre... racines, germer, pousser et mettre du temps à déconstruire toutes les autoroutes neuronales qu'on a depuis l'adolescence parce que je le revois tellement sur les magazines Mais ces filles-là, elles sont où? Parce que ces
C'est ça.
filles-là, elles n'existent pas dans mon collège. Hein. Où sont ces filles? C'était difficile de reconsidérer tout ça, mais je trouve que ton podcast permet déjà vraiment une prise de conscience salutaire en disant je suis pas la seule. Et tu parles très souvent hein, du côté se sentir seule avec son problème de nourriture, si on nomme pas forcément ça problème. Hein. Et ensuite de voir qu'il n'y a pas qu'une seule voie pour en sortir. Et tu insistes beaucoup là-dessus, il y a plusieurs chemins, plusieurs outils. Donc tu proposes plusieurs choses dans ton programme pour arriver à non pas contrôler justement son alimentation, mais vivre une relation saine avec les apports, avec le sport, avec le mouvement, avec le lien à soi, la confiance qu'on s'accorde. Est-ce que tu peux t'en parler un petit peu des effets que tu ressens chez les personnes que tu accompagnes? Tu disais, au bout de quelques mois, comment ça change pour elles?
Oui, alors effectivement, je disais au bout de quelques mois, alors ça va être différent d'une personne à l'autre, hein, et ça va passer par des chemins différents d'une personne à l'autre. Une des premières étapes, je parlais de la culture des régimes, mais une des premières étapes que je propose aussi, c'est de revisiter le passé, en fait, refaire son histoire avec l'alimentation, faire comme un récit de vie, tu vois. Alors après, les personnes choisissent de le faire à l'écrit, à l'oral, en s'enregistrant, enfin, comme elles le souhaitent. Et puis, de se rendre compte, en fait, de tout ce cheminement qu'elles ont fait, par exemple. Ah bah oui, tiens, quand j'étais petite, on disait ça à la maison, et puis il y a eu des premières remarques, et puis, ou le fameux mot dans le carnet de santé, voilà, comment tout ça a commencé, okay, est-ce que j'ai fait des régimes, combien? Tu vois, donc il y a toute cette prise de conscience déjà sur le parcours qui peut vraiment, là, créer quelque chose de, alors au-delà de la prise de conscience, mais de ramener justement cette auto-bienveillance, cette auto-compassion, de dire, ah ouais. Pas forcément de se mettre en colère après soi, justement, mais après ces injonctions, comme on le disait, et de se dire, ah ouais, j'ai fait subir ça à mon corps, j'ai subi ça émotionnellement, j'ai traversé ça. Et ok, aujourd'hui, alors, si elles sont dans l'accompagnement, c'est qu'elles ont déjà compris que elles ne voulaient plus, en fait, être dans ce système-là et sortir de cette autoroute-là et de cette ornière dans laquelle elles sont, en fait. Mais voilà, ça vient remettre du sens sur qu'est-ce que j'ai envie de changer et pourquoi j'ai envie de changer. Donc, déjà là, alors après, chacune avance à son rythme hein, dans l'accompagnement. Il y a des contenus sur une plateforme que les personnes traversent à leur rythme. Donc, certaines, elles vont avancer très vite, elles vont avoir, tu vois, on fonctionne de toutes et tous, hein, parce que cet accompagnement n'est pas fermé aux hommes, même si pour l'instant, j'ai accompagné aucun homme au travers de cet accompagnement-là, mais voilà. Donc, je vais dire toutes pour simplifier parce que c'est quand même pour l'instant que des femmes ou une grande majorité de femmes. Donc, voilà, certaines vont avoir un fonctionnement de je regarde tout, je fais les exercices, nanana. Et puis, d'autres vont avoir besoin de temps de digérer, tu vois, entre les différents exercices que je propose, etc. Et puis, nous, on se voit une semaine sur deux en groupe et en visio et chacune vient apporter là où elle en est, son questionnement. Et il y a aussi, moi, je crois beaucoup au fonctionnement de groupe. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de précieux parce que non seulement on se sent moins seul, tu en parlais tout à l'heure, mais aussi bah, on va entendre d'autres visions, d'autres choses que les personnes ont traversées, qu'on n'a peut-être pas traversées ou qu'on traversera plus tard dans le processus, enfin, etc., etc.
Il y a un
Donc.
effet miroir entre elles qui est très puissant. Moi aussi, les mamans ont témoigné que quand elles n'étaient pas concernées directement par ce symptôme ou cet élément-là, bah, d'en prendre conscience, c'était aussi apaisant parce que celui-là, finalement, elles ne l'avaient pas à résoudre. Donc,
Tout à
ça
fait.
aussi miroir, c'est-à-dire je peux te soutenir puisque moi, je ne suis pas empêtrée dans le même marais que toi. Et
Complètement.
par contre, quand moi, je vais exprimer mon point de douleur, bah, tu seras là parce que toi, tu ne le vis pas. Et il y a vraiment un échange dans la communauté, hein, quel que soit le programme en ligne, qui fait vraiment sens en plus des vidéos, en plus de l'accompagnement avec l'expert, qui entre elles, enfin moi, elles ont échangé entre elles, et c'est peut-être pareil dans ton groupe,
Oui.
elles ont échangé entre elles en individuel, et elles ont créé des liens très forts parce qu'elles ont dépassé ça ensemble.
C'est
Et c'est
ça.
vrai que nous,
Ouais.
on savoure ça aussi comme un effet secondaire pour elles et pour nous. Il fait décupler l'effet de l'accompagnement. J'adore,
Oui.
moi, les
Ah mais
entendre parler.
oui. Oui. Et donc, un des premiers effets, je crois que toute traverse, une des premières choses, c'est cette déculpabilisation, finalement. C'est de sortir de cette honte qu'elle pouvait avoir, de cette culpabilité à ne pas réussir quelque chose, en fait. Donc ça apporte déjà beaucoup d'apaisement. Et puis quand on travaille aussi, enfin quand elle travaille sur la permission inconditionnelle de manger, qui est un des principes de la thérapie, dont je n'ai pas parlé là juste avant, mais qui est un principe aussi assez central, j'ai l'impression qu'ils le sont tous, mais cette permission inconditionnelle, et inconditionnelle, le mot vaut vraiment son pesant d'or, et voilà. Alors, c'est pas simple, hein, parce que ça fait travailler, là encore, sur cette police de la nourriture, sur toutes les pensées qu'on a, mais cette permission inconditionnelle de manger, il y a comme un soulagement, en fait, qui s'installe. Il y a un travail aussi qu'elle se propose de faire parfois assez rapidement, c'est le bain d'image dans lequel elle baigne, en fait, de travailler dans la relation au corps, sur se recréer un univers visuel, par exemple sur les réseaux sociaux, de se désabonner de certains comptes, comme tu disais tout à l'heure, de la sportive, là, no pain, no gain, qui arrive à tout, qui a l'air d'avoir une vie merveilleuse à la salle de sport tous les jours, ce qui, entre nous, parle d'une relation quand même peut-être un peu compliquée avec le corps et le sport. Quand on ne se permet pas tellement de repos et qu'on est... Enfin bref, je ferme la parenthèse. Voilà, et de s'entourer d'images un peu plus inclusives au niveau des corps, que ce soit au niveau de la forme du corps ou que ce soit au niveau de la fonctionnalité du corps, parce que la représentation du corps jeune, mince, bronzé, tiens, pourquoi pas, musclé, enfin selon les périodes, ça peut changer, mais on est quand même baigné dedans, donc ça ne nous aide pas non plus, en fait, à sortir de ces injonctions-là.
On avait parlé en classe un peu avec des grandes sections dans l'atelier philo, parce que pour certains, le bonheur, c'était être beau et mince. Ce jour-là, évidemment, on avait parlé de ça parce que je me suis dit, oula, être beau et mince, c'est ça le bonheur? Je l'avais noté de côté en me disant, il faudra qu'on nous montre des modèles de corps qui soient différents dès l'école maternelle, parce que les supports sont pas les mêmes.
Donc oui, s'abonner à des comptes plus inclusifs, que ce soit par rapport à la forme du corps ou sa fonctionnalité, tu vois, des personnes avec un handicap, qu'une taille XXL+, enfin, des personnes, tiens, moi, ce qui m'avait beaucoup aidé dans mon processus au niveau du mouvement, c'est de m'abonner à des femmes qui sont pas forcément minces, musclées, mais qui font du mouvement, en fait, qui font du sport et qui peuvent être très, très... j'allais dire compétente, même si c'est pas le but, hein, d'être compétente dans son sport, mais en tout cas qui se mettent en mouvement avec d'autres formes de corps. Ça m'avait beaucoup aidé. Diversifier l'environnement visuel dans celui qu'on maîtrise peut être extrêmement aidant. Tout comme, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, hein, avec ces corps qui, à l'adolescence, tu te disais, mais ils sont où autour de moi? Eh bien, observer les corps autour de nous. Moi, il y a eu quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi dans mon processus. C'est un été où j'étais à la plage et où je regardais les femmes autour de moi. Je me disais, OK, il y a quelques adolescentes qui sont dans cette forme de corps mince, voilà, mais les femmes, en fait, comment elles sont, les femmes autour de moi en maillot de bain? Bah, elles sont comme moi, en fait, elles ne sont pas forcément minces, elles peuvent être avec des formes, elles peuvent avoir des vergetures, de la cellulite, la peau des bras qui pend, et qu'est-ce qu'on s'en fiche? Du ventre, moi, j'ai longtemps focalisé sur la forme de mon ventre. Bah oui, c'est des corps qui ont vécu, en fait. Et puis, chez les mamans, hein, des grossesses, bah oui, ça transforme le corps. Et peut y avoir cette croyance qu'on nous devrions retrouver notre corps d'avant la grossesse, mais c'est juste impossible, en fait. Il s'est passé des choses. Dans ce corps, il y a un bébé qui était installé là. Il y a un bébé qui est passé dans notre bassin. Notre bassin ne sera plus jamais le même. Voilà, arrêtons de penser que nous pouvons garder ce corps d'adolescent toute notre vie. En fait, il n'existe pas. Donc, toutes ces prises de conscience-là, ça fait assez rapidement changer le regard sur soi-même. Alors, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, on va se dire « Ah, comme je suis belle, c'est formidable, je m'aime inconditionnellement. » Et c'est d'ailleurs pas ça l'objectif, hein. C'est vraiment de tendre vers le respect, en fait, le respect de nous-mêmes, le respect de notre corps, quelle que soit sa forme. Parce que ce n'est pas parce que nous n'aimons pas notre corps tel qu'il est aujourd'hui que nous sommes dans cette détestation de notre corps, que nous souhaitons le changer, que nous ne pouvons pas au moins lui apporter un petit peu de respect. Donc ça, c'est quelque chose qui chemine quand même assez rapidement. Ça ne veut pas dire qu'on est satisfaite, encore une fois, cette insatisfaction corporelle. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui prend le plus de temps, en fait. La relation avec l'alimentation peut s'apaiser relativement rapidement, justement au travers de cette permission inconditionnelle de manger, de ce travail sur les sensations de faim, de rassasiement, sur le plaisir autour de manger, sur les pensées que nous avons sur la nutrition, par exemple, et de déconstruire certaines croyances. Ça peut amener un apaisement relativement rapide dans la relation avec l'alimentation, la relation au corps, ça peut prendre plus de temps. Cela dit, l'inverse existe aussi, puisque j'ai une de mes clientes qui a terminé il y a quelques mois et qui témoignait qu'elle, ça a été d'abord passé par la relation au corps, en fait, qui s'était apaisée. Et en particulier, cette cliente, elle a beaucoup cheminé autour du vêtement, on a beaucoup parlé de vêtements et de donner du confort au corps au travers de vêtements confortables, plutôt que de s'escrimer à rentrer dans cette taille-là de vêtements parce que c'est ça mon but, etc. Et d'être dans une tension par rapport à ça. Et en fait, elle s'est plutôt passée par là. Mais voilà, comme quoi tous les cheminements sont différents. Mais voilà, souvent, ça va d'abord être la relation avec l'alimentation qui s'apaise. Et puis la relation au corps, il y a un cheminement qui peut prendre, comme je le disais tout à l'heure, hein, des années. Mais voilà, un mieux-être déjà que toutes constatent au bout de cette année. Et encore une fois, elles se sentent OK pour poursuivre ce cheminement. Elles voient bien les choses qui restent encore à travailler. Bon, elles savent que je ne suis pas loin si elles ont besoin qu'on se revoie par-ci, par-là. Mais,
Oui, ça veut dire que les mamans qui nous écoutent, qui commencent à se poser des questions après la naissance, quand l'enfant commence à être un peu plus autonome, et qui parfois me disent « j'aimerais bien le reprendre en main, mais je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas par quoi commencer, j'ai l'impression que j'y arriverai pas toute seule ». Donc, il y a déjà des petites choses qu'on peut mettre en place à la maison en autonomie, mais après, il vaudrait mieux aller se diriger vers un expert dans ces thématiques-là. Comment tu leur proposerais de faire des petites actions déjà, d'être toute seule à la maison, et après, si elles le sentent, de se faire accompagner par quel type de professionnel?
Alors déjà, moi j'entends quelque chose dans le discours que je trouverais intéressant à travailler et à réfléchir dessus, c'est le « je me reprends en main ». En fait, comme si il y avait
une dépréciation directe
oui,
de
oui, oh là là. et comme s'il y avait quelque chose justement à nouveau autour de la volonté, autour de je devrais, autour de il faudrait en fait. Pour moi, c'est pas une question de se reprendre en main. Pour moi, c'est une question de s'interroger. En tout cas, dans ce que je travaille moi hein, avec les personnes que j'accompagne, ma relation à mon alimentation, ma relation à mon corps. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Comment je me considère? Comment je me vois? Comment je peux m'accorder déjà, ce qui est un défi pour les mamans, hein, un petit peu de temps et d'attention, en fait. Comment je peux retrouver du plaisir dans la façon dont je mange, par exemple, ce qui est là aussi un défi. Hein, quand on a vécu avec un nourrisson, on sait très bien que c'est la dernière chose qu'on arrive à faire, hein, de préparer à manger. On mange un peu, tu sais, c'est le ravitaillement en vol, en fait, un petit peu. Hein, c'est pas grave, en fait. Tu vois, il y a aussi ça dans « je me reprends en main », ce serait cette injonction à « il faudrait ces fameux 5 fruits et légumes par jour, il faudrait plus tout ce qu'il faudrait », tu vois. Ben non, en fait. Non, il faut déjà arriver à dormir suffisamment, à pouvoir se reposer, qui est un sacré défi quand on est une jeune maman, et puis trouver à se ravitailler parce que notre corps a besoin d'énergie quand on s'occupe d'un enfant, mais même quand on est de toute façon un humain, hein, d'une manière générale, notre corps a besoin d'énergie pour faire tout ce que nous avons à faire en 24 heures, en fait. Donc, c'est pas grave, on s'en fiche, quoi. L'équilibre alimentaire, il se fait. Alors, j'avais enregistré un épisode avec Amélie Carlo-Chichou, qui est diététicienne nutritionniste et qui travaille avec moi dans l'accompagnement indépendance cannelle sur ce principe, justement, de la nutrition bienveillante, parce que moi, c'est pas mon domaine d'expertise, hein, donc j'ai fait intervenir Amélie. Et elle rappelle dans cet épisode que cet équilibre alimentaire, il se fait sur une dizaine de jours, une vingtaine de repas, par exemple. Donc, si vous ne mangez pas de fruits ni de légumes pendant je sais pas, 5 jours, c'est pas grave, en fait. Vous en mangerez après et ça s'équilibrera, en fait. Me reprendre en main, ce serait plutôt me lâcher la grappe, en fait, déjà, pour commencer, quoi.
Sortir du tout ou rien dont tu parlais tout à l'heure.
Exactement. Exactement. Et de pas être dans « il faut que ce soit parfait ». Tu vois, c'est une injonction à la perfection que nous pouvons aussi avoir dans la parentalité. Oh, il faudrait que ce soit parfait, je ne devrais jamais craquer, je ne devrais jamais avoir un mot plus haut que l'autre. Non, en fait, c'est pas possible, quoi. Et puis, c'est même pas souhaitable.
Et par rapport à qui?
Et par rapport à qui? Exactement.
Qui est la référence, qui est la norme? Et sur le corps et sur la parentalité.
Exactement.
J'aligne toutes les injonctions à droite sur l'alimentation, j'aligne les injonctions à gauche sur la parentalité, plus le couple, plus le
oui,
à un moment,
oui.
Évidemment que ça explose. C'est un peu comme au Tetris. Hein. Toutes les cases s'accumulent et à un moment, ça saute.
Mais oui, complètement.
Donc, comment trier? Quelle grande phrase on pourrait se donner un peu comme des mantras? Je sais que tu travailles aussi avec la reformulation avec tes clients. Qu'est-ce qu'elles pourraient se dire quand elles commencent à se juger de « oh là là, je suis nulle, j'y arrive pas, c'est pas la peine ». Est-ce qu'elle pourrait se trouver une ou deux formulations qui seraient rassurantes, bienveillantes avec elle-même?
Oui, alors, je pense que ça passe par différentes étapes, hein, parce que si je suis en train de me dire « Ah, mais de toute façon, je suis nulle, j'y arrive pas », ça va être compliqué de mobiliser des phrases comme « je fais du mieux que je peux », mais ça peut être un début, tu vois. « Je fais du mieux que je peux », « j'avance à mon rythme », un pas après l'autre. Je peux me donner du temps aussi. Parce que, tu sais, il peut y avoir cette injonction, je pense aux jeunes mamans, qu'il faudra avoir retrouvé son corps d'avant en tant de temps, ou je sais pas quoi. Bah non, en fait, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne retrouvera pas le corps d'avant, puisqu'il a changé, en fait. C'est comme avec l'âge, hein. Je ne peux pas à 50 ans avoir le même corps et la même figure qu'à 20, hein. C'est pas possible. Donc,
Il y a déjà une acceptation de l'impermanence.
Exactement.
Une acceptation du changement sur notre trajectoire de vie.
Complètement.
Tu as touché un petit point que j'entends aussi en séance, c'est elles ont des craintes qu'on ne les accepte pas au niveau du couple, au niveau de leur statut de mère aussi. Parce que quand même, maintenant que j'ai été mère, il faut en quelque sorte que je me remette dans le moule de la femme active, séduisante.
Oui.
Alors qu'on peut être aussi séduisante si on n'a pas la silhouette B12 des magazines et tout ça, quoi.
Mais oui, mais c'est aussi en ça, et on n'a pas encore abordé ça, mais que souvent dans ce processus-là, on va rejoindre des valeurs autour du féminisme, en fait. Parce que quand on commence à se dire que notre corps n'a pas forcément, ou n'a pas du tout, à être considéré comme un objet, en fait, qui devrait être attractif, séduisant, désirable, mais dans une seule forme, parce que un corps peut être attractif et désirable, quelle que soit sa forme, en fait. Donc voilà, et qu'est-ce que ce serait qu'être désirable? Enfin, ça vient re-questionner ou questionner vraiment tout ça, toutes ces injonctions autour du féminin, autour du corps des femmes. Donc, beaucoup d'entre nous passent, alors avec plus ou moins d'être dans le militantisme, hein, mais juste dans des interrogations autour du féminisme et de la question de la place de la femme dans la société aussi. Parce que, tu vois, j'entends aussi dans ce que tu dis, je devrais être à la fois une mère, une femme, bonne dans mon travail, etc. Toutes ces injonctions à la productivité aussi.
La performance.
À la performance, exactement. Donc, ça vient re-questionner aussi toutes ces croyances-là, en fait. Une des premières questions à se poser, c'est mais de quoi moi j'ai besoin? Qu'est-ce que je veux pour moi, en fait? Alors, c'est extrêmement difficile, extrêmement vaste comme question. Hein,
mais elles sont habituées à ça.
Elles sont habituées, tu vois, parce que c'est une question
de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui clignote sur mon arc-en-ciel? Comment je me sens actuellement? Est-ce que le jugement des autres m'importe autant que la sensation de me sentir bien moi toute seule? D'écarter
Exactement.
Un petit peu la norme et le regard des autres et le jugement des autres, même si c'est difficile, d'autant quand on est jeune. Je pense qu'avec l'âge, on arrive à faire un petit peu plus de détachement du regard extérieur, mais c'est difficile au début de vouloir cocher les cases du rôle de maman, du rôle de femme, du rôle d'épouse, du rôle de professionnelle, d'autant que la société nous fait croire qu'une fois de plus, c'est possible.
C'est ça.
Toujours à ces paillettes extérieures de bah, « comment ça, t'y arrives pas ?» C'est toi qui as un problème. Non, il y a un patriarcat qui est installé, il y a quand même des normes qui sont dictées par des gens qui eux-mêmes sont aidés plus pour parvenir à paraître comme ça. Mais intérieurement, on n'est même pas sûr que ce soit vraiment la norme
de
ta vie.
Mais oui, complètement. Complètement.
Et tu as un panel d'experts donc, sur ton podcast qui peut compléter une grande partie de ce que tu nous as donné aujourd'hui. Comment tu les choisis, les experts? Est-ce que c'est des questions de tes personnes en séance qui te guident vers des experts?
Oui, alors ça va être plus au travers des rencontres. Tu vois, je parlais d'Amélie, par exemple, Carlo Chichou, comme elle est vraiment, donc c'était une diététicienne nutritionniste qui est formée à l'accompagnement des troubles alimentaires, avec une approche autour du comportement alimentaire, qu'on est dans la même mouvance, en fait. Donc on s'est connus via Instagram, hein, je rencontre beaucoup de personnes via Instagram, dans cet mouvement de l'alimentation intuitive et du travail autour de la relation avec l'alimentation. Donc, ça va être par le biais de rencontres, en fait. Et effectivement, il peut y avoir des questions qui reviennent. Et du coup, je me dis, ah bah tiens, oui, j'irais bien en parler avec telle personne. Ou il y a aussi dans l'accompagnement indépendance cannelle, et on a enregistré un épisode de podcast ensemble avec Camille Feuillard, qui est kinésithérapeute et qui parle du mouvement intuitif. Elle est aussi accompagnante en sport santé. Et elle parle vraiment de mouvement intuitif, et donc elle est venue construire le module dans l'accompagnement sur le mouvement intuitif et on a fait un épisode de podcast ensemble. Donc voilà, ça peut rejoindre des questionnements. Tiens, autour des injonctions, aux recommandations alimentaires, j'ai fait un épisode aussi avec une chercheuse en sciences de l'information et de la communication autour de l'alimentation. On a parlé de toutes ces injonctions alimentaires. Est-ce que ça vient provoquer, en fait, comme tension et comme impossibilité pour les personnes et surtout les parents, d'ailleurs, elle en parlait, parce que ça peut créer une tension chez le parent de faire le truc parfait, en fait, pour nourrir son enfant. Et certaines personnes, bah, ne serait-ce que pour des raisons sociales, en fait, d'accès à la nourriture, ne peuvent pas offrir 5 fruits et légumes par jour à leurs enfants. Donc, ça va venir créer des tensions autour de la parentalité extrêmement difficile. Fait aussi avec une naturopathe aussi qui est formée au comportement alimentaire. Donc, on a parlé de la façon d'aborder la santé naturelle, on va dire, mais sans entrer dans ces « il faut, je devrais », parce que la naturopathie peut être un vecteur d'orthorexie assez forte. Voilà, je ne les ai pas tous en tête. C'est par le biais des rencontres, en fait, et je me dis « tiens, ça pop, tu sais, des fois, ou comme nous parlons ensemble de parentalité, ben je me dis, mais oui, ce serait chouette que Séverine vienne parler de ces injonctions-là et des émotions chez les parents et de l'éducation émotionnelle aussi chez les enfants. Parce que pour moi, c'est vraiment une des bases, en fait, qui devrait être enseignée à l'école, en fait. Donc, c'est un petit peu comme ça.
Oui, vous piocherez allègrement dans la série, dans la playlist du podcast de Anne. Moi, il y a 2 épisodes qui me reviennent là pendant qu'on en parle. Il y a une photographe qui parle de l'image de soi. C'est vraiment très intéressant parce qu'elle pose des questions à ses clientes qui pourraient vous inspirer. Oui. Et aussi l'épisode sur la grossophobie. Oui. Mais vraiment une grosse claque quand on est au début de ce cheminement. C'est tout ce qu'on a introjecté comme norme et comme croyance sur le corps des autres devrait être ceci, sur l'emploi des personnes en cas d'obésité morbide et tout ça. C'est des considérations on a peut-être touché vite fait, mais qui, dans cet épisode-là, tu disais le 19, je crois, permettent d'enfoncer vraiment la porte. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur la grossophobie, je vous invite aussi à écouter l'épisode 19 d'Anne. Il y a quand même des choses pour lesquelles on ne se re-questionne pas. Il y a une métacognition qu'on ne peut pas non plus toujours appliquer à tous les domaines de notre vie, parce qu'on est déjà dans notre trou de hamster, au boulot, à la maison, dans le couple et tout. Mais cette question, elle touche aussi au rapport au corps, à l'alimentation, à la façon de voir nos voisins, à la façon de voir nos collègues. Et j'ai trouvé cet épisode très intéressant.
Je te remercie. Et il y a aussi, tu vois, l'épisode 9 sur le danger des régimes, je trouve qui est intéressant quand on commence à se questionner, parce que ça peut aider à une prise de conscience de pourquoi ça fonctionne pas, en fait, cette histoire de régime. Pourquoi ça nous met tout le temps en échec. Et puis également les épisodes 33 et 35 sur la question du poids, en fait, et de la façon dont on peut réaliser que finalement, on a peu de contrôle sur notre poids, parce que ce n'est pas juste une question de volonté, comme on pourrait nous le faire penser, mais que c'est bien plus vaste que ça. Donc voilà, et puis sinon, il y a la possibilité, si vous allez sur mon site pouvoircanel.com, tous les épisodes de podcast se retrouvent sur le blog sous forme écrite, exhaustive ou résumée, sous forme d'article. Et dès que vous allez en fait sur le site, vous avez la possibilité de télécharger un guide des épisodes du podcast que nous avons construit avec Cathy, qui est la personne qui rédige les articles pour moi. Et ils sont tous triés par thème, en fait. Et du coup, avec ce guide-là, vous pouvez assez facilement vous y retrouver parce que, aujourd'hui, il y en a près de 90 des épisodes. Donc, ça commence à faire beaucoup. Et donc, voilà, ils sont tous classés par thème. Alors, j'essaye de le remettre régulièrement à jour puisque des nouveaux épisodes arrivent au fur et à mesure. Trouvez la porte d'entrée qui sera la plus aidante pour vous.
Une boussole.
Une boussole.
Pour savoir par quel continent commencer.
Exactement.
Parce que c'est très foisonnant. En plus, tu as des épisodes de qualité qui sont parfois longs. Donc, ça demande aussi de choisir lequel est le plus pertinent pour votre situation personnelle actuelle. Parce qu'on aimerait entendre les 90, mais ça prend quand même un certain temps.
Oui, là, ça commence à faire beaucoup. Là.
Donc, le guide est bien utile pour désherber un peu les priorisations d'épisodes.
Complètement.
Tu nous as parlé tout à l'heure d'une première piste pour les mamans et les papas qui pourraient s'interroger sur leur relation à la nourriture. Est-ce que tu voudrais nous en donner un ou deux autres d'exercices? Peut-être tu as un épisode sur la pleine conscience. Ton podcast s'appelle La pleine conscience. On a souvent parlé de ça aussi parce que moi, j'ai un outil qui s'appelle le Tequil où on prend un temps de qualité en pleine conscience avec soi, avec son enfant, avec son partenaire de vie. Est-ce que par rapport à la pleine conscience, tu aurais un exercice à proposer aux auditeurs d'aujourd'hui ?
Oui, Alors, effectivement, c'est vrai que j'ai pas développé là-dessus, mais la pleine conscience l'utilise en séance et nous l'utilisons dans Indépendance Cannelle parce que pour moi, c'est un merveilleux moyen de développer l'auto-observation, de pouvoir petit à petit faire ce pas de côté qui nous permet de voir en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, la pratique de la pleine conscience, alors moi, je suis tombée dedans il y a 2-3 ans maintenant en ayant suivi le cycle MBSR, hein, qui est un cycle très formel de 8 semaines autour de la réduction du stress, mais qui peut aider dans plein de domaines différents. Et nous avions enregistré un épisode, alors j'ai pas noté le numéro, mais du podcast avec Virginie Dontenville, qui est instructrice en méditation de pleine conscience, avec laquelle nous avons parlé de comment ça peut aussi nous aider dans notre relation avec l'alimentation. Alors, il y a des exercices formels, en fait, qui existent, comme le body scan, par exemple, qui est une pratique de pleine conscience, où nous partons alors de la pointe de notre orteil gauche, du pied gauche, pour remonter le long de la jambe et l'autre jambe, enfin, et qui, moi, m'a personnellement beaucoup aidé à reconnecter, en fait, avec mes sensations corporelles qui pouvaient être totalement absentes dans certaines parties de mon corps. Donc, ça demande du temps et de la patience. Donc, c'est un exercice, je pense, que vous pouvez trouver assez facilement en audio guidé sur YouTube, peut-être, ou j'ai pas cherché, mais à mon avis, on peut le trouver facilement. Il y a aussi l'exercice de manger en conscience aussi avec un grain de raisin, qui est un exercice assez formel, mais qui nous permet de vraiment passer par nos 5 sens dans l'action de manger. Donc là, c'est utilisé formellement avec un grain de raisin sec parce que c'est un aliment assez neutre, mais quand même un peu sucré et sur lequel il n'y a pas forcément d'enjeu affectif. Je pense que rares sont les personnes qui se sont dit « Oh là là, mais les grains de raisin, c'est tabou, il ne faudrait pas en manger. Ou si je commence à en manger un, je vais en manger 100. » Enfin, je ne sais pas, hein, peut-être. Moi, je propose un pack d'audio de pleine conscience qui vous permet de commencer à pratiquer. Il y a aussi des applications hein, comme Petit Bambou qui est aussi bien connu et qui propose déjà en accès libre un certain nombre de pratiques. Et puis ensuite, ça fonctionne sur abonnement. Et voilà, dans Indépendance Cannelle, il y a toutes ces pratiques qui sont aussi au fil de l'accompagnement. Et quand nous nous voyons en séance de groupe toutes les 2 semaines, nous commençons toujours par une pratique de pleine conscience, ne serait-ce que pour arriver en fait, arriver dans le groupe, laisser notre journée derrière, reconnecter à nous-mêmes. Et puis moi, j'encourage aussi pas mal à mettre des pratiques informelles dans notre journée. Ça peut être, OK, quand je m'assois devant mon assiette, bah, de prendre le temps de respirer l'odeur de mon plat, de regarder avec mes yeux, tu vois, de faire marcher mes 5 sens. Et puis les premières bouchées, peut-être de prendre le temps de les déguster, de sentir la texture de l'aliment, de sentir l'odeur par le biais du goût, de repasser par mes papilles, de sentir le... Tu vois, est-ce que c'est croustillant? Est-ce que c'est mou? Est-ce que ça fait du bruit quand je mâche? Ok, qu'est-ce qui se passe à la 2e bouchée? Et puis peut-être la 3e, est-ce que j'ai autant de plaisir? Et puis voilà, le but, c'est pas de passer l'entièreté de nos repas comme ça, hein, parce que ce serait un petit peu casse-pied, enfin on s'ennuierait et puis ce serait très long. Mais voilà, de temps en temps, et peut-être pas tous les jours, hein, peut-être pas tous les repas, peut-être ça peut être quand je prends mon café le matin, tu vois, de déguster les premières gorgées, ou si je me fais un petit thé à un moment, ou un chocolat. D'ailleurs, il y a une pratique qui revient régulièrement dans les pratiques du jour de Petit Bambou, qui est la pratique autour du chocolat chaud, et je l'avais proposé une fois à mes clientes pendant l'accompagnement, où tu sais, on imagine, tu sais, on se dit, tiens, j'ai un chocolat chaud posé devant moi, je sens la vapeur, tu sais, du chaud du chocolat, après je sens l'odeur, que ça me fait saliver, enfin. Donc voilà, il y a aussi des pratiques comme ça, plus informelles, qui, je trouve, sont assez aidantes. En tout cas, moi, encore aujourd'hui, quand je sens que j'accélère, par exemple, tu vois, parce que moi, c'est quelque chose d'assez récurrent chez moi dans les repas, où je me rends compte que j'ai fini avant même d'avoir commencé, presque. Je me dis, oula, Anne, attends, qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi ça va si vite, en fait? Ralentis.
J'ai mangé.
C'est ça. Ou alors, ouais, j'ai un truc à faire derrière. Et non, voilà. Par rapport aux exercices, oui, je repense aussi à un épisode du podcast, c'est le 71, qui s'appelle « On fait le point sur votre relation à la nourriture » et dans lequel je vous propose un exercice aussi qui se trouve au sein de l'accompagnement Indépendance Cannelle et qui permet de faire le point, comme on le disait tout à l'heure, sur « Ok, j'en suis où aujourd'hui dans ma relation avec mon alimentation ?» Et puis, j'avais parlé, alors c'est dans les premiers épisodes de quel type de mangeuse je suis. Parce que dans la thérapie d'alimentation intuitive, il fait le point un petit peu sur quel type de mangeuse je suis. Et voilà, ça permet aussi d'éclairer pas mal. Donc, je n'ai plus le numéro en tête, mais vous le retrouvez facilement avec le guide ou en scrollant dans les... Je pense que c'est dans les 10 premiers épisodes du podcast. Quel type de mangeuse je suis.
Merci beaucoup pour tous ces tips. Ils pourront piocher dans ce qui leur semble le plus utile. Il y a des pratiques qui se ressemblent hein, avec ce que je fais dans mes accompagnements, notamment le scan de la cheminée des émotions, où on va voir comment on ressent notre flamme d'émotion actuelle. Et c'est une pratique, moi, que j'avais découvert en centre de vacances. Ce jour-là, j'ai trouvé en effet, non seulement mon corps s'apaisait, mais ça avait fait baisser ma charge mentale. Mes pensées qui tournent en boucle, Léopold, le petit hamster qui tourne en boucle. Donc, c'est des pratiques qui se rejoignent, qui sont transversales finalement, qui viennent à la fois du sport et de la thérapie et de l'accompagnement parental et puis dans d'autres pratiques. Mais prendre conscience de ce qu'on ressent plus que de ce qu'on pense, c'est un équilibrage qui est quand même pas forcément qu'on a appris hein, dans notre formation académique ou personnelle, mais qu'on gagnerait à pratiquer vraiment une fois par jour, si on y arrivait même 5 minutes, faire un petit scan physique, un petit scan de nos émotions, un petit dégagé de pensée inutile, hein, notre petit hamster qui nous envoie des jugements, des normatifs, des injonctions, en disant « Ok, je t'entends, vas-y, c'est bon, tu vas aller faire du vélo ailleurs ». Et puis aussi de prendre ce temps avec soi que tu préconises, dont je parle souvent aussi, et il y a un épisode 62 qui est dédié à ça. Les mamans, si elles ne prennent pas un temps pour elles, risquent d'absorber finalement en continu les priorités des autres, les urgences des autres.
Mais oui.
Revenir à soi, faire le point sur ce qu'on ressent, ce qu'on aimerait, nos besoins, tu disais tout à l'heure, peut-être nos envies liées à des plaisirs. Quel petit plaisir on s'est accordé, qu'il ne soit pas forcément alimentaire, soit aussi un rayon de soleil, se mettre sur sa terrasse, prendre un thé, quelque chose qui nous fasse du bien, qui fasse grimper notre flamme de bien-être, de fierté, de satisfaction, de sérénité. On va, je crois, dans ces directions-là, toutes les deux, d'apporter beaucoup de petites joies, en fait. On ne cherche pas une transformation absolue, mais d'abord d'accumuler plein de petites joies pour que les gens soient autonomes ensuite sur leur propre bonheur en construction. On fournit quelques pistes, bien sûr, mais c'est les gens qui vont être acteurs après, à partir de tous ces outils-là, et construire leur propre bonheur, ou avec leur corps, ou avec leurs enfants. Est-ce que tu aurais peut-être une phrase pour conclure sur toutes ces thématiques-là?
Oui, alors je ne sais pas si c'est une phrase pour conclure, mais ce qui me venait là, c'est que... C'est important aussi de pas tomber dans une nouvelle injonction, en fait. Parce que, tu vois, bien sûr que ce serait super si nous pouvions tous et toutes avoir des moments pour nous chaque jour, pratiquer la pleine conscience, même 5 minutes chaque jour. Que bah, des fois c'est possible, des fois ça ne l'est pas, et c'est pas grave en fait. C'est comme cette histoire d'équilibre alimentaire, tu vois. C'est vraiment tendre vers, être dans cette intention-là, en fait. De se remettre au centre, qui est un sacré défi quand on est parent, de se remettre au centre. Mais peut-être tu utilises aussi cette image que j'utilise souvent des consignes d'avion. Peut-être tu l'as déjà partagée ici, hein, le masque à oxygène. Hein, la consigne dans l'avion, c'est s'il y a une dépressurisation et que les masques tombent du plafond, eh bien d'abord de se le mettre à soi avant d'équiper l'enfant à côté de nous ou la personne vulnérable à côté de nous. Parce que sinon, nous allons tous mourir, en fait. Enfin, bon, cela dit,
plus du tout une personne ressource pour...
Exactement, exactement. Et ça, je trouve que c'est un tel défi, quand on est parent, mais même quand on est humain, j'ai l'impression, d'une manière générale, de se mettre au centre, que c'est prioritaire. Et ça me rappelle un de mes clients que j'accompagnais en thérapie et à qui j'avais donné cette image. Et il me disait... Tu sais, il avait ce geste de mettre dans la petite poche de sa chemise. Tu vois, il disait que ce qu'il gardait des séances, il le mettait dans la petite poche de sa chemise et il faisait souvent ce geste-là. Bon, vous nous voyez pas, mais il dit oui, je sais, c'est là, hein, le masque à oxygène, c'est moi d'abord, c'est ça qui est important. Et je pense qu'en tant qu'être humain, voilà, ça nous demande de déconstruire, là aussi, beaucoup d'injonctions où il faudrait que, et surtout les mamans, d'abord les autres, d'abord les autres, d'abord les autres. Ben non, en fait, d'abord soi. Et se remettre au centre, pour moi, ce serait peut-être ça le mot de la fin. C'est cette clé-là à apprivoiser petit à petit, de se remettre au centre et de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi. mais que c'est un chemin, en fait, et petit pas après petit pas, que c'est pas une nouvelle case à cocher, en fait, et une nouvelle injonction au bonheur ou à je sais pas quoi. Non, en fait, c'est un chemin.
On est sur ce chemin. Merci.
Exactement.
Beaucoup. Quels sont tes projets? Quelle est ton actualité du moment? Est-ce que les gens peuvent te contacter sur Instagram, sur ton site? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actu?
Je suis toujours joignable si vous voulez me contacter par Instagram ou par le formulaire de contact de mon site, hein, pour voir canel.com. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et l'actualité, là, à la rentrée, alors un peu après la rentrée, à l'automne, là, je vais relancer une session de groupe pour mon accompagnement indépendance Canel. Puisque je lance, alors actuellement, en tout cas en 2023, là, j'ai lancé une session au printemps et je vais relancer une session à l'automne, sachant que je travaille avec des groupes qui vont se constituer ensemble, en fait. Alors, c'est des petits groupes, hein, maximum 8-10 personnes. Moi, j'aime bien qu'il y ait, voilà, quelque chose comme ça d'assez intime et chaleureux. Donc, nous démarrons tout ensemble et nous terminons tout ensemble, en tout cas les personnes qui s'inscrivent pour les sessions. Une liste d'attente qui est ouverte et sur laquelle vous pouvez vous inscrire pour avoir plus de renseignements sur Indépendance Canel. Vous recevrez ainsi toutes mes news et puis vous serez aussi prévenu en exclusivité de l'ouverture des places. Et je vous enverrai des petits contenus que dans cette liste-là autour de l'accompagnement Indépendance Canel. Donc, n'hésitez pas à rejoindre cette liste, hein, ça n'engage à rien. C'est déjà pour avoir des informations et faire connaissance. Avec ou sans la liste, ben voilà, n'hésitez pas à venir me questionner, je réponds avec plaisir.
Et tu parlais tout à l'heure d'un pack d'audio. Est-ce que tu veux le présenter en quelques mots, si ça intéresse?
Oui. Alors, ce pack d'audio, alors si vous souhaitez rejoindre Indépendance Canel, pas forcément la peine que vous alliez l'acquérir parce que toutes les pratiques sont dans Indépendance Canel, qui est vraiment mon programme phare, en fait, où vous allez retrouver, parce que j'ai aussi un autre petit programme qui s'appelle Mon corps ce héros et qui permet en 5 jours et 5 audios d'avancer de quelques pas dans la relation au corps. C'est un programme qui est aussi dans Indépendance Canel, mais si vous avez envie, voilà, de commencer par quelque part, ça peut être par exemple soit le pack d'audio guidé, de pratique de pleine conscience guidée. Donc vous avez accès à ces audios tant que vous voulez, quoi. Hein. C'est sur une plateforme et vous allez les écouter, vous allez les pratiquer, vous pouvez les télécharger et les faire quand vous le souhaitez. Et puis vous recevez régulièrement pendant quelques semaines des mails aussi où je viens prendre de vos nouvelles, vous encourager à mettre en place ces pratiques-là. Et puis Mon corps ce héros, donc c'est un programme avec 5 audios que vous recevez pendant 5 jours pour avancer de quelques pas dans une relation un petit peu plus apaisée avec votre image corporelle. Donc ça peut permettre aussi de voir un petit peu la façon dont je travaille, ces petits programmes-là. Mais voilà, ils sont aussi inclus dans Indépendance Canel.
Merci beaucoup pour toute cette actualité. Et tu avais enregistré 2 épisodes avec une spécialiste aussi de la toute petite enfance qui s'appelle Rita. Donc, j'invite aussi les auditeurs à chercher dans le guide les épisodes avec Rita où vous évoquiez l'alimentation de l'enfant plus précisément.
Tout à fait.
Vous parlez aussi de la mise en place de l'alimentation pour le tout petit.
Oui.
Qui est naturelle et qui aurait tout intérêt à rester la plus fluide et souple possible pour éviter que... à l'adolescence ou plus tard, il y a des contraintes introjectées plus tard.
Tout à fait, oui, oui.
Eh bien, merci beaucoup, Anne. Je te souhaite de très bonnes vacances.
Merci.
À très bientôt.
Merci, Séverine.
Je mettrai tous tes liens, bien sûr, en légende de cet épisode pour que les gens puissent te contacter. Au revoir.
Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi, pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt, et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.